Podcast.com. Essaye ça.
Express du 16 mai. Salut Martin.
Salut. Pour ceux qui n'auraient pas compris, Frank vient de dire Express du 16 mai, c'est parce que je t'apprends à me battre à remettre mes lunettes. En tout cas, ça a fait weird. Salut. C'est un drôle de matin. Écoute, ma mère m'a envoyé...
J'ai pas entendu ça.
Un drôle de matin, ma mère m'a envoyé une vidéo. Il neige au Témis. D'ailleurs, il neige à Rouen aussi, Frank. Ici, au musée de la Sudation, on n'a pas d'eau. Fait que je suis toute sale. Je peux pas prendre de douche, rien. C'est ça, c'est weird. C'est spécial.
Comment ça, pas d'eau? Ils ont tout refait les canalisations pendant 2 ans. Là. Ils ont fini l'année passée.
Ben oui, ils ont fait la moitié de la rue, Frank. Ils sont en train de faire l'autre moitié. Puis c'est pas 2 ans, là. C'est 1 an. Là.
Ouais, ben j'ai une petite tendance des fois à l'exagération quand je veux caricaturiser. Mais quand je regarde des fois ce que je dis à propos de Rouen, que l'hiver dure 1 an... Comme ça aujourd'hui aussi.
Mais non, fait que c'est ça, c'est une matinée un petit peu weird. Là, fait que j'ai une casquette parce que vous voulez pas voir mes cheveux en ce moment avec mes écouteurs. Puis là, j'essayais de remettre mes lunettes de même pendant qu'il fallait que j'aille peser sur les pitons.
Sans enlever la casquette ni les écouteurs.
Là, faut pas oublier aussi qu'on a un peu le cerveau dans le jello parce que hier, dans le Deep Steak épisode 91, disponible sur patreon.com/crachoir, ben, on a regardé l'essentiel des témoignages d'Amélie Poul et de Stéphane Hamel. C'est rien ça pour te... Écoute, je vais vous imiter le témoignage de Stéphane Hamel.
OK, moi je vais faire ma réaction.
Voilà. Ça se résume pas mal.
L'être humain le plus soporifique que la Terre ait jamais porté. C'est incroyable comment ce gars-là est plate et est incapable de s'exprimer. C'est épouvantable.
C'est débile.
Ses E sont entrecoupés de virgules. Il y a...
c'est débile. C'est incroyable.
Aussi, ça n'a pas de bon sens. C'était pénible, pénible.
C'est
fou. C'était drôle, au moins, par bout. Pathétique, des fois, quand elle se met à broyer. Mais tu sais, c'était une pièce de théâtre. T'sais, cette commission d'enquête-là n'en est pas une. Je trouve ça ridicule que d'ailleurs, on l'a vu hier, qu'Éric Duhem traite ça, même appelle ça une commission d'enquête. Ça n'en est pas une. C'est une pièce de théâtre conspi avec des acteurs conspi qui tiennent des propos conspi pour un public de conspire. Il n'y a rien de. Il n'y a aucune recherche de la vérité. Il n'y a aucune intention de comprendre ou de savoir ce que les gens ont vécu. Les gens, c'est des leaders conspires qui parlent. Tu sais, c'est
même les intervenants, là, puis on a parlé dimanche, là, mais tu sais, même les intervenants, tu sais, les procureurs, les commissaires, tu sais, quand ils parlent aux gens qui sont. Quand ils parlent avec les gens qui interviennent à la commission, à la conspicion, en fait, qu'on devrait dire,
oui. Ben,
ils ont le lingo, tu sais, c'est le narratif, la présumée pense des mines, tu sais, ça n'a pas d'allure, c'est débile.
Ah, les commissaires ont déjà une idée toute faite et font partie sont des militants, OK? Autant les intervenants que les commissaires militent pour la même cause, la cause conspire, puis essayer de faire croire aux gens qu'il y avait un narratif derrière la pandémie, que tout était écrit d'avance, puis que le but c'était de détruire les libertés individuelles des gens, puis de finalement pour instaurer une dictature que finalement, tu sais, là les masques sont plus obligatoires, toutes les mesures sont tombées. Fait que vos théories de dictature, ça reviendra jamais, puis c'est ça maintenant le nouveau Québec. C'était de la merde, OK? Fait que c'est la commission d'enquête devrait juste arriver à cette conclusion-là si ça en était une vraie. Mais ça n'est pas une vraie. C'est un festival de conspi. On va faire un petit coup retour. Ben, en fait, il y a eu une petite mise à jour sur le dossier de Simon Jolin Barrette, qui a nommé un de ses chums dont il a célébré le mariage lui-même. juge, ben, il va avoir une enquête. Le commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale va enquêter sur cette nomination-là. Qui tout sauf subtil, hein, tu sais, c'est...
Ben, tu sais, je me suis pogné, pas pogné, mais j'ai échangé avec quelqu'un, tu sais, sur Twitter, tu sais, qui disait, tu sais, ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais quand le meilleur candidat disponible, tu sais, c'est quelqu'un que tu connais, à un moment donné, cette personne-là ne devrait pas être lésée de connaître le ministre de la Justice? Oui, elle devrait. Tough shit. That's it. Trouve-en un autre. C'est pas. C'est pas la Ligue nationale de hockey, là. T'sais, c'est pas. On a le premier choix au repêchage, là. Non, non. Prends l'autre. C'est tout.
Ben, moi, je pense que c'est difficile de déterminer que c'était le seul ou qu'il était tellement meilleur que les autres. T'sais, t'sais, vraiment, t'sais, une tête au-dessus de tout le monde. Moi,
on devrait même pas.
On devrait qui aurait pu être choisi.
On devrait même pas avoir à déterminer de si c'est le meilleur ou pas. T'es bodé avec le ministre. Bye. C'est tout. Fini. Fin. Il n'y a pas de « ouais, mais là, c'est parce que... » Non! Attends qu'il ne soit plus ministre. C'est tout.
Je ne sais pas c'est la nature des liens, mais en tout cas, c'est supposé être des amis. Fait que, tu sais, je veux dire, des liens d'amitié, puis quand c'est rendu que tu l'as choisi comme célébrant pour ton mariage, ben écoute, c'est des liens assez proches, là. Ça paraît pas bien, puis même si ça avait été le candidat le meilleur... t'as raison, Martin. Je veux dire, les apparences, il y a apparence de conflit d'intérêt. Puis souvent, on va sévir pour conflit d'intérêt ou apparence de conflit d'intérêt. On peut pas se permettre ça. L'unité ministre.
On s'entend, là. Ça donnera rien, là, tout ça, là. On n'a pas trouvé de traces de. On s'entend. Oui, ça donnera rien. Mais faites-le un peu de trouble, toujours. Là.
Moi, il tape ses doigts, là, tu sais. Lui, il va rester juge, puis Barrette
va rester ministre. C'est sûr.
Mais au moins, il faut qu'on voit une volonté, tu sais, il faut que le gouvernement démontre sa volonté de ne pas laisser le copinage intervenir dans des nominations comme ça. Puis, ben une enquête, ça devrait faire ce travail-là. Là. Un dossier que j'ai retenu hier parce qu'on a manqué de temps, je voulais le faire comme il faut, c'est à partir d'un article de Tristan Péloquin qui a enquêté là-dessus. C'est épouvantable. À toutes les fois où je vous parle de recyclage, de l'industrie du recyclage, d'usines de recyclage, de centres de tri, des fois, je me fais dire que je suis une mauvaise foi, puis je dis, ouais, mais c'est tout le temps tout croche, c'est tout le temps des criminels, c'est tout le temps du monde qui ont de l'argent caché ailleurs, c'est tout le temps du monde qui achète ça, qui trie les matériaux de valeur, vendent les métaux précieux, puis après ça, font faillite parce qu'ils ne recyclent pas ou mal les matières qui sont censées être recyclées. Fait qu'on entasse le papier journal puis les choses qui n'ont pas de valeur, puis on se fait de l'argent avec l'aluminium, l'étain, puis tous les métaux précieux qui valent de l'argent. Et après ça, on prétexte une faillite après avoir bien caché son argent ailleurs, puis on ferme la shop, puis le gouvernement donne le contrat à un autre qui va faire la même calisse d'affaires. Je l'ai vu en Abitibi, je l'ai vu à Québec aussi. On l'a vu à Montréal avec Ricova. Puis d'ailleurs, eux autres, ils recyclaient hein, les matières qui avaient peu de valeur. Sauf qu'ils ne faisaient pas un tri, un vrai tri. Ils mélangeaient le plastique avec toutes sortes de déchets organiques, des affaires qui n'avaient pas rapport. Fait que quand ça se ramassait à l'autre bout du monde dans un conteneur, c'était renvoyé ici ou en Inde où on brûlait ça. On s'en servait comme combustible pour des usines de briques. Ça marche pas, le recyclage. Ça ne marche pas. C'est juste une occasion pour des gens sans scrupules de s'enrichir puis de donner bonne conscience au gouvernement et aux citoyens avec des publicités trompeuses, ridicules, des fois, de Recycle Québec. Je veux toujours me rappeler de la maudite pub, je la ramène à chaque fois, où le tata dans un parc prend son pot de yogourt, finit de manger son yogourt. Regardez bien ça, je vais construire un banc de parc. Puis là, il met son pot de yogourt dans la poubelle de recyclage. Non, c'est pas construire un banc de parc. Tu viens de contribuer à empoisonner des gens en Inde qui vont respirer les fumées de ton pot de yogourt qui va être utilisé comme combustible pour une usine à briques. Parce que le recyclage, c'est pas rentable. c'est de la marde, c'est une industrie tout croche, c'est pas écologique pour deux cents, ça gaspille un paquet d'eau potable, ça brûle un paquet d'énergie fossile. Si c'était rentable, ça fonctionnerait. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne jamais. Même les. Moi, mais il y en a qui vont dire, oh, mais là, c'est la vétusté, c'est parce que c'est pas à jour, c'est pas moderne. Ben oui, Ricova a été construit en 2018. Il n'est pas capable de faire le travail non plus. Puis pendant ce temps-là, on laisse les compagnies faire du suremballage à outrance pour avoir un plus gros logo sur le paquet, pour rassurer un consommateur qui est germophobe pour ne pas contrevenir à des lois souvent exagérées de la MAPAC. Ça marche pas. Puis on a encore un exemple de criminel qui administre un centre de recyclage. C'est à Canis-Attaqué cette fois-ci. C'est supposé être un centre de recyclage. Mais c'est un centre de recyclage, c'est supposé venir en aide à l'environnement. Puis ça, là, elle est pas me dire, ouais, mais elle est pas me penser que je suis pas environnementaliste parce que je suis contre le recyclage. C'est exactement le contraire. Je suis contre le recyclage, ou plutôt la façon dont on le fait, qui équivaut à arroser la cime des flammes d'un incendie en recyclant l'autre bout, alors qu'on aurait pu empêcher le suremballage en donnant des amendes à la base, mais on le fait pas. On se dit, oh, on va régler ça à l'autre bout. Puis à l'autre bout, qu'est-ce qui arrive? Rien. La compagnie s'appelle G&R Recyclage. C'est au nord du territoire Mohawk de Canis-Attaqué. Puis il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour retenir les eaux dégueulasses, brunantes, mousseuses, comme les décrit Tristan Péloquin. Ça arrive d'un ruisseau qui, lui, traverse une section du centre du dépotoir. Là, je ne peux même pas appeler ça un centre de tri. Là. Puis ça c'est filtré par les déchets. Puis après ça, ça s'écoule de façon dégoûtante en polluant l'environnement autour. On décrit ça comme une bombe environnementale et politique, évidemment. Pourquoi politique? Ben parce que personne ne veut rectifier les faits ou personne ne semble en avoir le pouvoir. Vous irez voir l'article dans la presse de Péloquin, les images sont à vomir. On voit une grosse brèche dans une tranchée qui est censée couper l'eau. Et puis l'eau contaminée traverse les déchets et s'en va directement dans la forêt. Ça s'écoule dans le ruisseau Graton, puis dans le ruisseau Girard, et finalement, ça s'en va tout dans le lac Deux-Montagnes, en contaminant tout sur son passage. Est-ce que c'est légal? Ben non, c'est pas légal. Sauf que, apparemment, personne ne peut rien faire. Il y a eu des tentatives de... Il y a un groupe de citoyens, d'ailleurs, avec la communauté Mohawk de Canis-Attaqué, qui a fait des démarches envers les propriétaires, qui sont deux personnes avec un lourd passé criminel, on va le dire de même. Puis quand on montre ça à un expert, comme le professeur de chimie environnementale Sébastien Sauvé, il dit ça n'a pas de sens, il dit j'ai jamais vu ça. Les eaux... qui sont captées, les eaux sales qui sont captées, sont supposées être envoyées dans des bassins de traitement pour ne pas que le jus de vidange se retrouve dans la nature. Rien de ça qui est fait. Ça risque de ben évidemment, pas ça risque, ça contamine. Puis ce qui est le plus inquiétant de ce que ce professeur-là nous dit, c'est que si ce genre d'installation-là se trouvait n'importe où ailleurs, il y aurait des mesures très contraignantes puis une exigence de conformité qui serait appliquée de façon très sévère pour qu'on rectifie la situation. Puis là, il y a eu des amendes, là, tu sais, sur 18 000 piastres, une affaire de même, pour que des correctifs soient apportés. Mais rien n'est arrivé. On étire l'élastique, on se sert de tous les recours possibles pour retirer ça. Le fait que c'est en territoire autochtone, c'est pas mal la raison pour laquelle on marche sur des œufs. Surtout un territoire autochtone où il y a de moins en moins d'encadrement. Là. Les Il n'y a plus de police, là. C'est pas compliqué. Il n'y a à peu près plus de service de police, là. Tout marche à l'intimidation. C'est si tu entreprends des démarches pour combattre cette affaire-là, ben, tu te fais intimider, tu te fais menacer en toute impunité. Les ministères de l'Environnement du Québec et du Canada, les deux ont prélevé des échantillons, puis ça monte un taux de d'hydrocarbures, puis de attends un peu. Hydrocarbures aromatiques polycycliques, de la marde, OK? De la marde. Vraiment au-dessus du taux qui est recommandé par le Conseil canadien des ministres de l'Environnement pour la protection de la vie aquatique. Autrement dit, ils suivent pas les normes. Puis des rejets dégueulasses, des affaires bactériologiques qui peuvent jusqu'à aller à nuire à l'humain. Mais si ça nuit à l'humain, c'est parce que ça nuit aux animaux en chemin, puis aux plantes, puis à toute la vie qu'il y a entre nous et les déchets dans la nature. On dit que nulle part ailleurs, on pourrait imaginer ça. Mais vu que c'est à Canis attaqué, on dirait que les lois environnementales ne s'appliquent pas. Les gens ont peur de représailles. Comme je disais tantôt, ça marche à coup de menaces, puis ferme ta gueule, sinon. Les propriétaires, deux frères, Robert et Gary Gabriel, ou Robert et Gary Gabriel, je ne sais pas, je m'en calisse, ils ont des gros antécédents criminels. C'est du monde qui est culturé. Quand ils disent de fermer ta gueule, ta ferme. Ils sont décrits comme des... écoutez, James Gabriel, l'ancien leader de bande, en 2004, avait décrit ces deux personnes-là comme les leaders du trafic de narcotiques sur le territoire de Canis-Attaqué, affiliés aux Hells Angels, mafia russe, chinoise. Tu sais, des... T'sais, même s'ils m'appellent... S'ils m'appellent après-midi, là, ça se peut que je la ferme ma gueule aussi. Mais je pense pas qu'ils me connaissent, ni qu'ils écoutent l'Express. Mais... il se passe rien, il se passe juste rien. C'est même risqué d'aller là. Puis, tu sais, quand t'arrives là, t'es accueilli par un vieux pick-up blanc criblé de balles. Genre, viens pas ici. Tu sais, genre de message-là. On a d'ailleurs déconseillé d'utiliser un drone pour prendre des photos. Ça a été fait quand même. Puis, on entendrait des coups de feu de façon régulière dans ce coin-là. Puis, je te dis, c'est pas rassurant, là. À l'entrée de la dompe, le pick-up blanc, là. Plein de balles, plein de trous de balles, tu sais, c'est comme un message. C'est comme ça que ça marche à Canis attaqué. Puis là, ben, on blâme le... En fait, on dit que du côté du gouvernement québécois, on aurait épuisé pas mal tous les recours légaux qu'on a. Ouais, mais ils veulent pas. Ouais, mais il y a des amendes, moi, hein. Puis après ça, ben, t'es censé les obliger, moi, mais ils veulent pas. Ça coûterait 100 millions de dollars pour cleaner cette place-là. Ça, c'est ce qu'on voit dans le suivi d'aujourd'hui, toujours dans la presse. C'est ce que ça coûterait. 100 millions pour remettre ça, tu sais, correct. Il y a des inspecteurs de Québec et d'Ottawa qui ont visité la place plusieurs fois. Ils ont pris des échantillons puis ont exigé des améliorations. Ça a été ignoré. On utilise des recours pour retirer ça. Il y a une amende, comme je disais tantôt, c'est 17 883. Fait que j'étais pas mal dessus, il y a 17 000, 18 000. Et dans ce milieu-là, selon le ministre Charrette, il décrit ça lui-même comme d'un milieu extrêmement criminalisé. Est-ce que tu parles de Canis attaqué ou du recyclage? Je vous trouve ça fit avec les deux. Évidemment, ils sont très bons pour jouer avec les règles, pour contourner les lois et pour étirer les recours, pour demander des reports. Puis là, ben, Benoît Charrette, qui est le ministre de l'Environnement, il dit qu'il est allé au bout de ses capacités avec les lois québécoises qu'on a pour forcer les propriétaires à se conformer.
Ils veulent pas. Ils veulent pas.
Puis là, on rejette le blâme sur Ottawa qui dispose d'une enveloppe impressionnante de 1,16 milliard sur 4 ans pour nettoyer des sites comme ça, justement. Mais, tu sais, ça ne peut pas être plus target. C'est une enveloppe budgétaire qui sert à rectifier des désastres environnementaux ou des bombes environnementales, comme on l'a décrit dans l'article. Fait que ça devrait se retrouver là. Non! C'est pas dans l'inventaire des sites contaminés. C'est un des pires, là. Mais non, celui-là, il touche pas. Pourquoi? Canis attaqué. On veut pas avoir de problème. On veut pas provoquer ces gens-là. On veut pas provoquer, je sais pas de quoi on a peur. Est-ce qu'on a peur d'être vu comme... comme faisant de la discrimination? Est-ce qu'on a peur de critiquer? Est-ce qu'on a peur du pouvoir criminel, des représailles que ces criminels-là, parce que ce sont des criminels, c'est avéré, c'est pas une théorie, là. Est-ce qu'on a peur des représailles, tu sais, directement d'eux autres? Les gens de Canis Attaqué, la population, là, pas les gestionnaires de ça, eux autres aussi sont tannés, sont inquiets de ça. C'est un dépotoir illégal. Moi, on a fait une vidéo virale avec le gars qui dit parce qu'il jette 3-4 2x4 dans son remblai pour se faire un parking. Les trucs. Tout le Québec a ridiculisé cet individu-là et un journaliste est dans sa face. Puis, ah, gars, ça, c'est de la pollution. Puis, gars, je vois du bois d'œuvre, là. Pas de bois d'œuvre. On a fait une joke de ça. Tout le Québec se moque de ce gars-là. Pourquoi c'est un kidam? Puis, on parle quand même de juste un parking, là. Il a juste remblayé pour faire un parking. Puis, il est devenu la risée du Québec. Puis, il va le rester pendant des années, là. Mais quand c'est un dépotoir illégal à grande échelle qui contamine à coups de milliers ou de millions de litres, on n'ira pas les écœurer, là. Pourquoi? Parce que c'est deux puissants criminels. Et en plus, c'est sur un territoire Mohawk.
Oui.
Ah, c'est bien plus facile d'aller rire du gars à Kentley là, ou à Gatineau, je ne sais plus trop. Ça, les journalistes, ils vont. En tout cas, ben moi, je salue quand même le courage des journalistes qui parce que pour vrai, ça doit être intimidant là, d'aller là, prendre des photos, puis d'écrire sur ces gens-là. Si je ne me trompe pas, James Gabriel, l'ancien chef de bande, quand il avait critiqué ces gens-là, sa maison s'est retrouvée incendiée. Il a fallu qu'il se cache, là. Il a fallu qu'il se cache. Tu sais, les représailles sont venues, là. Moi, je salue les journalistes qui ont eu le courage de mettre cette histoire-là au jour. Parce que sinon, on n'en parlerait pas et les ministres ne réagiraient pas. On le sait, là, comment ça marche, les ministres. On attend qu'on sait qu'il y a des dossiers litigieux, on sait qu'il y a des scandales en dormance, mais on attend que ça sorte dans les journaux pour les adresser. On l'a vu avec le français, on l'a vu avec les profs d'école qui couchent et font des enfants à leurs élèves, on l'a vu avec les initiations dans le sport. Tant que c'est pas dans les journaux, les ministres, ils s'assoient sur leurs mains. Là, ils vont pas volontairement aller se mettre d'un scandale puis risquer de voir leur image ternie ou de se faire intimider. Mais là, c'est dans la presse. Bravo à Tristan Péloquin. Et un collaborateur aussi, il faudrait que je le nomme, parce que Joël-Denis Bellavance. Je suis reconnaissant que ces gens-là fassent leur travail de journaliste pour protéger la population et dénoncer ce genre d'affaires-là. Ça fait 2 ans que nous sommes en... Ça, c'est les propos d'Alexandre Boulris, qui est chef adjoint du NPD. Ça fait 2 ans que nous sommes en contact avec les gens de la communauté de Canis Attaqué. Ils sont très inquiets à cause de la présence de ce dépotoir illégal, de la pollution, de la contamination de l'eau. Ils sont aussi inquiets sur les enjeux de gouvernance et de sécurité publique dans leur communauté. C'est des criminels qui mènent la place. C'est extrêmement préoccupant ce que l'on entend sur l'intimidation, les menaces et la violence. C'est une situation épouvantable. Il n'y a plus de service de police là-bas. Est-ce que par crainte de froisser des Premières Nations, est-ce qu'on va laisser une population livrée à elle-même à vivre sous une menace perpétuelle et une omerta d'un réseau criminel dangereux et qui opère un dépotoir illégal en toute impunité et que le gouvernement laisse faire parce qu'ils ont peur? Si la police et le gouvernement ont peur d'aller rectifier ça d'aller faire sa job là parce que c'est des criminels qui mènent la place, qui va aller le faire? Si on ne peut pas se fier aux autorités, là, si on ne peut pas se fier au gouvernement provincial et fédéral pour faire respecter la loi et donner un climat de paix aux Autochtones qui vivent là, qui va aller le faire? Ça prendra ce que ça prendra, mais il faut aller faire le ménage. Là. Ça ne peut pas être des criminels qui mènent la réserve. Ça peut pas être des. Puis on ne peut pas laisser des criminels opérer un dépotoir illégal, se foutre des normes environnementales, puis laisser toute la fonte se contaminer pour faire de l'argent. Là. Je pense que, tu sais, la morale de ces deux personnes-là, je pense que la preuve est faite qu'elle n'est pas bonne. Tu sais, ils s'en foutent pas mal de leur prochain. Ils se foutent de l'environnement, ils se foutent de leurs concitoyens. Ils sont là pour faire du cash. C'est le propre d'un criminel. Tu sais, il veut faire du profit au détriment de peu importe qui. Il y a des gens qui sont prêts à tuer là, pour aller voler là, dans une banque. Là. Ou dans un dépanneur, ou faire les poches à quelqu'un. Prêt à tuer quelqu'un pour faire de l'argent. Prêt à empoisonner du monde avec des drogues épouvantables. Mettre du fentanyl dans des cochonneries, tu sais, en sachant très bien que des gens vont mourir d'overdose. Envoyer ça dans la rue pareil. Pourquoi le cash? C'est ça, un criminel. Ben, c'est des criminels qui gèrent cette compagnie-là et qui, manifestement, j'allais dire dirige, mais plutôt règne sur cette réserve-là. Je pense que si la police et je pense que si les autorités font leur job, je pense pas que ça va faire une crise d'Oka, là. Une numéro 2. Je pense que ça va être. Je pense que ça va être bien accueilli de la population parce que c'est pas le fun de vivre d'une place de main. Vous avez quelque chose à commenter là-dessus?
C'est un merdier. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, c'est à partir du moment où est-ce que les déversements causés par ce dépotoir-là affectent des gens qui vivent pas sa réserve. Je veux dire, il y a des riverains du lac des Deux-Montagnes. Je voyais dans les commentaires aussi, ouais. Tantôt quelqu'un qui habite à côté d'une rivière qui est affectée par le déversement de vidange. Cossin, puis du jus de poubelle, puis la personne, elle disait, je me demandais, c'était pas ma fosse septique qui était pétée, parce que l'odeur qui émanait de la rivière était dégueulasse. Regarde, moi tu dis, je pense pas que ça va faire un Oka 2.0. Peut-être ce qui se passe, c'est que les autorités concernées savent pas si ça va faire un Oka 2.0. C'est surtout ça, peut-être, le problème, là. En fait, c'est que pour le savoir, tu n'as pas le choix d'intervenir. C'est ça l'affaire. Là. Fait que là, est-ce qu'il va y avoir pression? Est-ce que ça va faire. Tu sais, moi, à partir du moment là, que y a criminalité, c'est fini. Là. Les Premières Nations, on en parle souvent, ils ont été victimes d'un paquet d'affaires, tout le kit. C'est deux dossiers, il ne faut pas mélanger. Là. Two wrongs don't make a right.
Mais c'est pas les Premières Nations qui opèrent ça. C'est deux criminels. Puis Nations qui vivent là le subissent. Et moi, ils n'ont même plus accès à des peacekeepers pour garder la loi. Là,
je comprends, c'est une affaire de territoire. Invariablement, ça va être une affaire de territoire. Pourquoi ils font ça là précisément? À cause de ça? À cause des problématiques du bourbier judiciaire et. Les droits ancestraux, puis tu sais, toutes les affaires. Regarde, c'est un bourbier, c'est pas compliqué, puis c'est regarde, je comprends que, regarde, je vais te résumer ça comme ça. Je comprends que l'opinion publique serait 100% d'accord. Je comprends qu'il y aurait toutes les raisons pour faire quelque chose. Je comprends que, tu sais, 100 millions, ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est après l'étape de on intervient, puis vous sacrez votre camp de là, puis vous arrêtez tout ça. Mais de penser qu'il n'y aura pas de conséquences, de penser que ça causera pas de problématiques, je pense que c'est un peu naïf, là. Ça va brosser, là, c'est sûr. Mais, m'amener. Faut pas d'omelette sans casser des œufs.
Ben, moi, ce que je comprends, c'est que la population locale de la réserve demandent une intervention. Ils veulent que ça arrête. Là, pis,
tout le monde va être d'accord que ça en prend une. Il n'y a pas d'erreur là, là. Les résidents aussi, là, puis les gens des les Mohawks qui habitent là, je suis certain là, qu'ils ont hâte que ça se règle. Mais tu sais, de penser que ça n'aura aucune... Ah, là, ils vont débarquer là, puis ils vont arriver, puis il va y avoir une squad d'intervention, whatever, puis tout. C'est sauf que là, regarde, à un moment donné, ben tu mets tes culottes, puis il faut que tu fasses de quoi. Là. C'est pas compliqué.
Oui. Mais je serais étonné que des citoyens, des Premières Nations, les accueillent avec des barrages. Moi, je pense qu'ils vont juste comme... OK, ils vont se tasser. Allez-y, on est inquiets nous-mêmes.
Souhaitons.
Oui. Mais il y a quand même, tu sais, ben, la piste de solution qu'on avance, ce serait de supprimer le tu sais, c'est comme un permis, hein, que le gouvernement octroie à ces gens-là d'opérer ça. Ils peuvent supprimer ça, là. Ils peuvent dire, ben, regarde ton permis, on te l'enlève. Ça finit là. Puis après ça, là, on prend le 100 millions, puis.
Ben, c'est sûr qu'au final, tu sais. S'il faut, je veux dire, il n'y a pas de solution autre que de nettoyer ce site-là. Là. Tu sais, c'est bien clair. Là. Puis ça, bien, regarde, c'est ce que je te dis. S'il y avait eu une intervention avant, si les gens seraient réveillés avant, si, écoute, ben, peut-être que ça c'est pas 100 millions qui auraient coûté régler ça.
Ça n'aurait jamais dû être opéré. Ça n'a jamais été conforme de ce que je comprends. Mais l'ancien grand chef Serge Otis-Simon, qui vient d'ailleurs d'être réintégré au conseil de bande à Kanis-Attaqué. Fait que lui, il fait partie du conseil de bande. Lui, il dit, le ministre fédéral, parce que le conseil de bande puis les Autochtones ont demandé là, au gouvernement d'intervenir. Là. Puis lui, ce membre du conseil de bande-là de Kanis-Attaqué, dit que le ministre fédéral des Affaires autochtones aurait le pouvoir d'enlever le certificat de possession qui a été accordé au frère Gabriel, puis ça réglerait le problème. Ben, go! Faites ça, là, parce que... Puis,
demain,
s'il vous plaît, avant d'octroyer ce genre de permis-là ou de certificat de possession, de permettre à des gens d'opérer des affaires de même, surtout dans le maudit milieu pourri et corrompu du recyclage, on pourrait-tu faire un petit background check? Tu sais, on pourrait dire, ah, regardons ça, toi, c'est-tu pas les trafiquants, les leaders du trafic de narcotiques puis des criminels de carrière? Ah, moins qu'on le donne à quelqu'un d'autre. Non, on le redonnait à eux autres.
Frank, tu sais, écoute, là, la dernière job que j'ai eue, là, tu sais, que j'étais un employé de quelqu'un, là, je vendais des photocopieurs, maudit Chris. Il a fallu que je passe un back check criminel pour pouvoir vendre des copieurs. Leurs copieurs, pas les miens, là. Les leurs. Puis là, ben ça, tu peux octroyer un garde. Mais là, je comprends.
Ça croit que c'est à l'inverse.
Je comprends que c'est pas simple, là. Bon. Je veux pas.
On dirait qu'on vérifie. OK, il va opérer un centre de tri. Est-ce que ce sont bien des criminels? Vérifiez donc. Là, on donne pas ça à des gens en aide, ça marchera pas. Pour faire faillite. C'est tout le temps tout proche. Tu sais, le recyclage, c'est l'industrie de l'hypocrisie. C'est ça que c'est. Surtout tant qu'on ne va pas pénaliser le suremballage, le recyclage sera toujours une industrie de l'hypocrisie polluante et inutile. On fait une petite pause.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantie.
Bonjour, je m'appelle Madeleine. Tout ce qui est TV, il y a une gang de modos. Modos, ça veut dire des modérateurs. Fait que là, faut pas que tu capotes s'ils t'envoient dans ta chambre 5 minutes. C'est en se parlant qu'on se comprend. Tourlou!
Martin, à toi.
Ben, tu vas trouver ça plate, mon sujet, après un gros sujet de même. Mais écoute, je te raconte ça m'a beaucoup interpellé parce que, Tu sais, hein, on parle souvent, puis beaucoup d'intelligence artificielle et tout ça. Puis on parle beaucoup aussi d'influenceurs, puis on parle de même les pères et les parrains de l'intelligence artificielle ont suggéré de peser sur pause, tu sais, pour un an, pour s'asseoir, puis on voudrait re-regarder ce qu'on a créé, puis la bête que nous avons... dont nous avons fait la promotion. Ben écoute ça m'a beaucoup interpellé parce que ben tu vas comprendre. Il y a une fille aux États-Unis qui est une influenceuse, c'est la façon dont elle se décrit elle-même, et son nom c'est bouge pas deux secondes. Je vais t'expliquer ce qu'elle a fait pour commencer. Elle s'appelle Karen Marjorie et c'est le Washington Post qui a sorti cette histoire là. Elle, ce qu'elle prétend vouloir faire, c'est de guérir la solitude de ses abonnés. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis une application qui permet à ses abonnés de discuter avec une copie d'elle, mais qui est évidemment de l'intelligence artificielle, et qui a été entraînée au moyen de 2000 heures de contenu vidéo de Karen. Fait que l'intelligence artificielle a mâché 2000 heures de contenu. Puis là, ben, un peu comme sous la forme d'un chat GPT ou peu importe, dépendamment des questions qui sont posées, de la formulation, de l'espèce de verbiage qui est utilisé, ben là, l'intelligence artificielle va composer une réponse qui serait pertinente à ce que Karen Marjorie répondrait.
C'est-à-dire qu'elle dit elle demande à voir le gérant?
C'est écrit C-A-R-Y-N. Fait que c'est pas les mêmes. C'est pas Karen, c'est Karen. Nice try. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que ça va te coûter une pièce US, ça revient à 1,35 canadiens, la minute que tu lui parles. OK? Karen Marjorie, c'est une fille de 23 ans. Elle a déjà fait 100 000 piastres.
Ça peut guérir la solitude, mais c'est monnayer la solitude.
Okay. Ben oui. Frank, ça ne fera pas ça gratuitement.
C'est influenceuse, ben oui.
C'est une
naïveté de ma part.
C'est une influenceuse. Alors, donc, elle a 23 ans, elle a déjà gagné 100 000 piastres grâce à cette application-là. Et ce qu'elle leur offre, c'est de devenir leur amoureuse virtuelle pour 1,35 la minute. Ouais. La technologie qu'elle utilise, ça s'appelle Forever Voices. Je connais pas ça. Il y a des gens qui se sont servis de cette technologie-là pour, entre autres, créer de façon réaliste des personnalités comme Steve Jobs, Taylor Swift et Glana de Pumurt. Oh. Elle a 2 millions d'abonnés au total sur ces plateformes. Donc, ça inclut Instagram, YouTube, Snapchat. Et les conversations, l'autre affaire qu'elle s'assure au sujet de laquelle elle veut rassurer ses abonnés, c'est que ces conversations-là, elle écoute ça n'a pas de sens. Sont cryptées, ces conversations-là. Donc, il n'y a pas de danger. Tu sais, ça va demeurer privé. Quand je vois ne pas être en train de te parler, mais de le faire virtuellement et artificiellement, moi-même, je pourrais pas les écouter. C'est tellement calme.
Quelle époque de merde.
Fait que là, autrement dit, c'est... Regarde. Je peux pas tout vous répondre. Écoute ça. La raison pour laquelle j'ai créé Karen AI, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est parce que je veux guérir la solitude chez mes femmes. Avec l'application, la jeune femme estime qu'elle serait en mesure de gagner plus de 5 millions de dollars par mois. OK? Et là, moi, ça me fait capoter. Elle dit, mes fans ont vraiment un lien très fort avec moi. À cause de ça, il m'envoie des messages tous les jours. J'ai réalisé, il y a environ un an, que ce n'est pas humainement possible de répondre à tous. J'aimerais pouvoir, mais je ne peux simplement pas. Fait que je vais faire 5 millions par année, par mois, excuse, 60 millions par année, là, c'est des chiffres gagaroches, là. Mais je vais faire 60 millions, je pourrais faire 60 millions par année en te parlant pas. Puis je te promets que je les écouterai pas, les conversations. À quelle époque vivons-nous?
N'importe quoi. T'sais, on capote avec la fondation puis les conspis qui demandent de l'argent. Ça, c'est encore pire, là. C'est, au moins,
ben oui, c'est
pire. Qui, ça donne un espèce d'avantage, mais on dirait qu'aujourd'hui, il y a comme un concours de s'enrichir de la façon la plus stupide, puis les gens payent pour de la merde. C'est, qu'est-ce que vous faites là? Payer pour des affaires de même. Vous êtes bien cave. C'est une fraude au grand jour, là. Je veux dire, c'est
ouais, mais c'est ça le problème, Frank.
La merde!
C'est ça le problème, Frank. C'est que, tu sais, puis c'est vraiment drôle parce que combien de fois c'est arrivé qu'on se soit astiné avec des influenceurs, puis je parle pas juste de la complosphère, je parle, tu sais, pas avec, mais à propos de tu sais, quand on voit des gens défendre des influenceurs, associés ou non à la complosphère, tu sais, leur dire, ben oui, mais regarde ce qu'ils font, c'est important, réveil du monde, blablabla, puis tout le kit. Tu sais, qu'est-ce qu'on s'est souvent fait répondre? Tu sais, je suis certain là que dans le chat en ce moment, là, il y a des gens à qui ce que je m'apprête à raconter, c'est arrivé. OK? Tu t'en vas, moi, je ne vous conseille pas de faire ça, mais il y en a qui l'ont fait, là. Tu t'en vas sur la page d'un influenceur X, peu importe, complosphère, pas complosphère, vente de cossins, d'ergolite, n'importe quoi, là. OK? Puis là, tu t'en vas là, puis tu dis, ben voyons donc, vous prenez vraiment le monde pour des caves, puis patati patata. Je garantis, je suis convaincu que je peux pas mal prétendre qu'au minimum 9 personnes sur 10 à qui c'est déjà arrivé, une des réponses qui se sont faites donner, c'est « Ben oui, mais on n'oblige personne. » Ils n'ont pas un gun sur la tête. Ils n'ont pas un gun sur la tempe là, pour acheter un Ergolite or go home ou whatever. Tu sais. Fait que c'est invariablement, c'est la même affaire. Ça va être la même affaire pour Karine AI. Là. Ben oui, mais ces gens-là, François, ils se sentent seuls.
Ils vont continuer de sentir ça, le garanti.
Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que tu penses?
N'achète pas un ami.
Ben voilà, si qu'est-ce que à quoi prêtes-tu flanc si tu crées quelque chose comme ça? Parce que invariablement, regarde, si toi, t'es un dude qui tripe sur Karine et AI, puis une fois de temps en temps, pour t'amuser, tu t'en vas friper 3-4 piastres, 10 piastres, parce que tu y poses des questions puis qu'elle te répond. Correct, moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Moi, je pense plus aux gens qui sont peut-être moins pourvus en termes de bourse de socialisation dans la vie. Puis que là, ben, tu sais, ils vont. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui vit fou à jouer à World of Warcraft. Ça se peut-tu qu'il y ait quelqu'un qui vit fou à parler avec une fille virtuelle? Tu sais? Mais.
Ça se met fort pas mal.
Ben, c'est ça. Mais la problématique associée à ça, c'est que, et malheureusement, ils ont raison. Il n'y a personne qui les oblige. Il n'y a pas de loi contre ça. J'ai le doigt. On revient avec j'ai le doigt. Puis, tu sais, je repense à des affaires comme Ghislaine Langteau. Je repense à des pseudo-gourous de la santé, des affaires comme ça. Le problème, c'est que tu ne peux pas... tu peux pas forcer quelqu'un à ne pas aller à une conférence de DSGIS. Tu peux pas. Il y a aucun recours légal qui existe au Canada pour dire ça. Pour la même raison que la Scientologie aux États-Unis a donc voulu être reconnue comme étant une religion, parce qu'en vertu de, je me rappelle plus c'est lequel, l'amendement, ben lorsqu'il vient question de foi, lorsqu'il vient question d'allégeance idéologique ou whatever, personne ne peut t'empêcher de croire ce que tu fucking veux. Puis je suis pas en train de suggérer qu'on devrait arrêter ça, là. Je suis pas en train de dire, hey, quand c'est les seules religions, c'est néfaste, puis t'as plus le droit de faire partie d'une église. Non, c'est pas ça que je dis. Mais ceci explique cela. C'est plus ça que je veux dire. Ouais,
C'est pas plus ridicule, cette histoire-là, que les méga-churches avec les pasteurs qui se payent des jets privés avec des dons de tata qui pensent que parce qu'ils donnent de l'argent que ce crosseur-là,
ben non,
Dieu va les guérir ou les rendre heureux, ou les rendre riches. Il y en a, la prosperity gospel, donnez-nous votre argent et Dieu va vous récompenser en vous faisant gagner plus d'argent.
Ou en t'envoyant au paradis. C'est encore
pire. Ouais, le pire, je pense, c'était Robert Tilton dans le temps. Lui, il disait carrément, tu sais, il y en a deux qui témoignent et qui me disent, oui, mais je suis endetté de 115 000 $ puis là, j'ai un petit 1000 $. Je dis, regarde, si tu mets le 1000 $ sur ta dette, là, ben, tu vas quand même être endetté de 114 000 $. Tandis que si tu l'investis avec Dieu, tu pourras être sorti de toutes tes dettes puis de tous tes problèmes puis tes péchés sont pardonnés. Fait que si t'as 1000$, mets-les pas sur tes dettes, ça change rien, tu restes endetté. Donne-le à moi et Dieu va te bénir. Tu sais, c'est vraiment malhonnête, c'est tout croche. Puis le monde choisit de donner leur argent pareil, puis ces pasteurs-là se roulent dans leur argent. C'est dégueulasse. J'ai un breaking news, si tu permets, Martin.
Ah ben, oui.
Avant que tu me parles de genre de savoir ce qui est arrivé avec Golden Voice, mais c'est sorti, ça fait 20 minutes, Maxime Bernier plaide coupable à des violations des ordres sanitaires au Manitoba. Ah. Donc, est tombé. Il a plaidé coupable. Fait que ça devrait se régler assez vite. Puis il y a un autre dossier aussi, Jean Charest. Québec ne contestera pas le... ne portera pas en appel le jugement qui octroyait 385 000 $ à Jean Charest, mais va contester la demande de 715 000 $ supplémentaires de Jean Charest pour abus de procédure et le gouvernement va perdre contre Jean Charest. Puis c'est pas parce qu'on aime Jean Charest, oublie pas, hein, faut le dire. On l'aime pas, Jean Charest! Mais c'est le meilleur, c'est le meilleur.
Je veux te parler de quelque chose qui est arrivé dans les derniers jours puis qui est un peu passé en dessous de notre radar, en fait, principalement parce que c'est arrivé dans la soirée de jeudi puis on n'est pas là le vendredi. Tu sais, dans le fameux dossier de « Sortons les radios poubelles » contre RNC Média, puis de la requête, je me souviens plus, là, de l'injonction de type Norwich. C'est quoi ça? L'injonction de type Norwich, c'est lorsque... Quand une partie qui se considère préjudiciée veut faire la preuve qu'elle l'a été, elle peut demander le recours de l'injonction Norwich. C'est quoi ça? Ben, c'est une injonction qui ordonne aux hébergeurs, aux fournisseurs de aux ISP, je ne sais pas le dire en français, Internet Service Provider, les fournisseurs Internet, de donner des renseignements personnels relatifs aux adresses IP de certaines personnes. Donc, mettons, tu veux faire la preuve, toi, Frank Pocket, qu'en me servant de l'Internet, j'ai fait des affaires qui t'ont causé préjudice, tu pourrais invoquer l'injonction Norwich pour que mon fournisseur d'Internet, même si je me sers d'un VPN, même si j'ai donné un nom fictif, blablabla, tu pourrais, la cour pourrait redonner une injonction qui fait en sorte que le fournisseur sera obligé de donner à ton avocat, mettons, mon nom, mon adresse ou à tout le moins celle que j'ai donnée au fournisseur Internet. On se comprend? Fait que là, ben, c'est une première manche qui a été gagnée par RNC Media parce que le juge en cause ici, Alain Michaud, a en effet émis une première ordonnance de type Norwich à l'encontre de Meta, donc de Facebook, afin de connaître l'identité des opérateurs de la page Facebook Sortons les radios poubelles. Fait que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les détails de la poursuite, là, je ne les connais pas de fond en comble. Ce que je sais, par contre, c'est que RNC Media veut faire la preuve qu'ils sont victimes de préjudice de la part de cette page Facebook-là, ou en tout cas des gens qui administrent cette page-là, parce qu'ils recommandent aux gens de ne plus de boycotter leurs commanditaires. Ils invoquent un acharnement, ils invoquent ci, ils invoquent ça. C'est sûr et certain que dans en anglais, on dirait le grand scheme of things, là, dans la généralité de la chose, moi, j'ai un peu de problème avec ça. Par contre, ben, si on applique ça vraiment à la Québécosphère, est-ce que ça va prêter flanc? Tu sais où je m'en vais, là, tu sais, les coucous, là. Tu sais, puis moi, je m'en sacre, là. Tout le monde le sait, ménage du dimanche, ma face est partout. Ben oui, ben c'est ça, voilà. T'sais, fait que là, quelqu'un va traiter quelqu'un de maillet sur sa page Facebook. Sa page Facebook, la photo de profil, c'est un chat. Puis l'adresse de son profil, c'est Profile ID 12345. Ben là, moi, je veux une injonction Norwich, là, parce que là, c'est pas correct de dire que je suis un maillet, là, puis tout, là. Fait que, écoute, moi, je sais pas... Ça me tourne dans la tête depuis que j'ai appris ça. J'ai pas encore d'opinion définitive sur la question parce que je pense à autre chose. C'est que là on parle.
Tu trouves que tu as perdu de l'argent, que tu as un préjudice. C'est que
je comprends. Je comprends, Frank. Mais mettons par contre que je ne sais pas, moi, je suis capable de faire la preuve que quelqu'un qui a fait en sorte que des fans de sa page sont venus chez nous puis qui ont scrappé ma porte, mon char, mon suivi le soir. T'sais, est-ce que là, ça pourrait être quelque chose qui s'applique comme injonction pour obtenir des informations? Mais quand c'est pour dire à du monde, n'allez pas acheter, n'allez pas chez Poutine, chez T-Bob parce qu'ils commanditent Radio X, Tu comprends? Je suis pas encore. Je me suis pas rappé la tête encore assez autour de ça parce que pour moi.
Ça pourrait ouvrir une porte à des.
Ouais. Weird, c'est ça. Parce que pour moi. Écoute, gars, je vais t'en donner un exemple. Mon but, c'est vraiment pas ici de me lamenter pendant 20 minutes. Là, mais tu sais, je te donne un exemple. Tu sais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a créé un compte Facebook avec ma photo. Puis la photo qu'il a pris, puis c'est moi qui ai mis ça public. Je l'avoue, votre honneur, c'est moi qui ai mis ça public. Là. Okay? Quand j'ai fait ma cellulite... facial, ben, tu sais, il a pris cette photo-là, il a créé un profil Facebook. Bon, fine, OK, gars, t'as gagné, ça a duré 2 jours, c'est drôle. Mais moi, j'ai absolument pas la possibilité. Il y a du monde qui m'ont aidé, là. Il y a eu une affaire comme 40 avis, là, 40 plaintes qui ont été faites, puis ça n'a jamais été enlevé, là. Puis, garde, à la limite, là, je veux dire, moi, c'était plus pour l'exercice puis le principe. Mais mettons, par exemple, que ce gars-là dirait. Que je suis un pédophile, dirait que tel soir, j'étais à telle place, puis j'ai fait telle affaire. Tu sais, là, ça serait-tu correct d'invoquer, de demander une injonction Norwich pour savoir c'est qui le propriétaire de ce compte-là? Mais ben, c'est pas correct de le faire pour Radio X, tu sais, fait que, en tout cas, je suis pas encore arrêté sur ce que j'en pense définitivement. Là, j'essaie de faire montre de sagesse puis tu sais de toujours appliquer le « two wrongs don't make a right ». Deux erreurs n'annulent pas les deux premières. Là, mais
être accusé faussement d'un crime puis critiquer du contenu en public d'un réseau diffuseur, c'est deux choses, là, pour moi, en tout cas. Là.
Ben oui, puis regarde...
On a le droit de critiquer tout ce qui passe à la TV puis à la radio.
Ben moi, je pense ça. Moi aussi, je pense ça. Je écoute.
Nous, on pourra plus le faire, ça ira pas bien, là. On n'est pas dans une démocratie.
Puis, tu sais, je veux dire, je vais le dire une dernière fois, là, avant qu'on ait M. Golden Voice, là, mais je vais le dire une dernière fois. Je suis pas intégralement d'accord avec tout ce que sortons les radios poubelles ont fait ou ont dit, là. Je le suis pas. J'irai pas. Sauf que, tu sais, on parle pas ici d'être d'accord. On parle de, y ont-tu le droit? C'est pas pareil, ça. C'est pas la même affaire, pas en tout. Fait qu'en tout cas, moi ça, je vais suivre ça avec grand intérêt parce que j'ai hâte de voir ce que ça pourrait faire avoir comme répercussion. L'audience en question dans laquelle ils ont présenté ça, là, ça a eu lieu le 27 avril. Puis là, ben, ça va suivre son cours. Fait que là, ben, ils vont informer les gens. J'imagine qu'ils vont informer la partie demanderesse de, ben, regardez, voici ce qu'on... Sauf que, au final, par exemple, et ça, je ne le sais pas, mais quel nom ont-ils donné aux fournisseurs Internet? Là est toute la question. On s'entend. Fait que, voilà, on va suivre ça. Puis là, Frank, si t'es prêt, moi, j'ai des informations pour toi au sujet de Ted Williams.
Oh yeah.
Écoute, il y a ben de l'information parce que il a fallu, bon, première des choses, il a fallu que je passe à travers, je te dirais, 4 articles, là, 4 affaires, des journaux locaux à Cleveland parce que c'est là qu'il était. Puis il y a des versions que c'est pas toujours pareil, puis Ted, tu sais, il y a un passé particulier, fait que ça se peut qu'il ait dit des affaires à un, puis d'autres affaires à l'autre, puis ainsi de suite. Puis il aime beaucoup Jésus, il aime beaucoup Jésus, fait que tu sais, il y a bien des affaires de... Fait qu'en tout cas, regarde. Ça a commencé, je t'explique le contexte, le fameux journaliste du Cleveland machin, là, du Cleveland Post, en tout cas, peu importe, là, c'est pas grave, là, le Cleveland Herald ou... Il y avait une job de faire une vidéo. Non, mais c'est un journal sérieux, là. C'était pas. On est en 2011, puis lui, sa job, c'est un photojournaliste, mais il a également le mandat de fournir au journal. Tu sais, on est à l'époque, le début des médias sociaux, on veut avoir une présence. Faut que tu me fournisses une vidéo par jour. Fait qu'il a remarqué ce gars-là, qui était sur son chemin pour aller à la job, Ted Williams. Puis, à un moment donné, il a dit, ah, tiens, regarde, je vais essayer de faire de quoi avec lui. Fait que là, il a donné une pièce, il a fait une cote, on s'en souvient, vous l'avez vu, la vidéo virale. Et après ça, il a dit, hey, gars, m'a donné 10, viens me rejoindre l'autre bord de la rue. Et c'est là qu'on voit la fameuse entrevue très courte, là, au cours de laquelle il raconte que c'est depuis l'âge de 14 ans, puis son père l'avait emmené dans une station de radio, et patati et patata. Et là, ben, on apprend que. C'est un peu quelques années plus tard, donc dans sa jeune adulte qui a commencé à consommer de la cocaïne et à la fumer et des problèmes d'alcool et tout ça. Il a été très, très verbal à propos de ça. Donc, c'est 2011, la vidéo virale. Une semaine après la parution de cette vidéo-là, qui a eu des millions de clics, il a été arrêté parce qu'il y a eu une altercation avec sa famille. Parce qu'il y a des enfants, il y a une mère et tout ça. Écoute, on est venu à bout, il est venu à bout de se sortir de ça. Et dans la foulée du fameux clip, il a obtenu un emploi auprès des Cavaliers de Cleveland, l'équipe de basketball de la NBA. Il a été annonceur pour eux autres.
Annonceur, oui.
Il a été également engagé par le mastodonte NFL Films, qui est avec la WWE, qui est, selon moi, la meilleure compagnie de production de films sportifs. C'est NFL Films, là. Avec la voix, avec la... Regarde, c'est vraiment cool. Quand t'es fan de football, NFL Films, c'est une référence. Après ça, il passe à Dr. Phil. Et à Dr. Phil, ça, on est toujours en 2011-12. Il passe à 2011, pardon. Il passe à Dr. Phil. Il dit qu'il va s'en aller dans une clinique de réhabilitation. Puis là, il se rend dans une clinique de rehab au Texas et il sac son camp après 12 jours.
Oh.
Bon, relapse, whatever, peu importe. 4 mois après, il est retourné, par exemple. Il s'est confié à un autre journal, puis il a dit, oui, c'est vrai, je me suis en allé 12 jours après, mais là, j'ai la ferme intention d'y retourner au même centre puis de faire les 90 jours, ce qu'il a fait. À ce jour, on n'a pas d'indication qu'il aurait rechuté. Ceci, je me fie au fil des événements. Là. Il a perdu son emploi, malheureusement, avec les Cavaliers de Cleveland. Il est retourné à Dr. Phil, tout ça, c'est en 2011, là. Il est retourné à Dr. Phil, il a fait l'aveu qu'il y avait des problématiques de dépendance bien plus grandes que ce qu'il avait dit la première fois qu'il était allé puis qu'il s'en allait en rehab et tout ça. Et là, ben, il vient à bout de se retricoter quelque chose puis de se remettre un peu sur le droit chemin. En 2012, il écrit ses mémoires. Ça s'intitule « A Golden Voice, How Faith, Hard Work and Humility Brought Me from the Streets to Salvation ». Et pour écrire ce livre-là, il y a eu une avance de 375 000 $. Fait que, garde.
Oh, mauvaise idée, un toxicomane.
Ben, non, il n'y a pas eu de rechute suite à ça. En fait, on avance dans le temps de 2 ans. En 2014, il donne une entrevue, je me souviens un peu à quel journal, et il admet qu'il est cassé bien raide. Quand il a été comme pris en charge par un paquet de monde en 2011, ben, il a signé plein de bebelles qu'il n'aurait probablement pas dû. Son entourage a pris... Tu sais, ils l'ont installé dans un condo. Ben, tu sais, il se prenait une cote par-dessus le prix du condo pour pouvoir... Tu sais, pour l'administrer. Il s'est fait fourrer par tout le monde. C'est ça, exactement. En 2015, il annonce qu'il va se présenter aux élections présidentielles à titre d'indépendant. Avec un agenda ultra Jesus freak, là, je veux sauver le monde, puis blablabla. Mais il se fait engager par Pepsi pour une campagne qui s'appelle The Joy of Pepsi, qui passe au Super Bowl et tout ça. Et là, ben, on est en droit de se dire. Puis là, il s'est pogné des gigs de voice aussi pendant ce temps-là. Là. Tu sais, c'est un peu avec ça qu'il vit. Là. Il vient à bout de se tricoter des revenus avec ça. En 2016, il obtient son propre show de radio sur une station de Cleveland. Et là, ben, il se passe pas mal d'affaires en 2016. Son ancien agent, mais qui l'est à l'époque, c'est un gars qui s'appelle Alfred Battle. Et ça va pas super bien financièrement. Il a le job et tout, là, mais t'sais, il roule pas encore sur l'or. Et tout ça, il propose de faire de quoi pour lui, avec lui, c'est de se rendre en Afrique et de se faire payer 10 000 $ pour y aller. Fait que là, il dit, j'ai pas trop trippé sur le concept pis tout. Pis finalement, Alfred Battle, lui, il est allé et il s'est fait arrêter parce qu'il se promenait avec 550 000 piastres d'héroïne de cachées sur lui. Fait qu'il a été chanceux, il s'en est sorti. Et parallèlement à ça, en 2016, il a fait beaucoup d'activités. Tu le vois, il y a des vidéos. Il redonne beaucoup à la communauté, au shelter où est-ce que lui-même est allé et tout ça. C'est pas une mauvaise personne, là, Ted.
Non, c'est quelqu'un qui en arrache.
En 2016, on apprend que tout ce temps-là, il y avait une blonde depuis 91, absolument. Absolument. Puis qu'elle a toujours resté à ses côtés malgré les hauts et les bas. Dans la foulée de tout ça, 2016, avant ça, là, il a repris contact avec ses enfants, il a repris contact avec sa mère. Semble-t-il que ça se passe bien, semble-t-il qu'il est toujours sobre. Mais les dernières nouvelles que j'ai pu trouver, elles datent de 2021. Il n'est pas à la rue, mais il est sans domicile fixe. Il vit chez un ami qui s'appelle Mark Anderson. Et dans le dernier reportage que j'ai trouvé sur lui, on lui a carrément posé la question « Est-ce que tu regrettes que cette vidéo-là ait été virale, tu sais, puis toutes les aventures qui s'en sont suivies? » Des fois, oui, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, ben là, le classique, ça fait de moi qui je suis, puis le « The Lord », puis bon, ben, voilà. Fait que, aux dernières nouvelles, ça se peut qu'il y en ait eu d'autres depuis, là, mais je vous dirais que j'ai pas mal creusé. Aux dernières nouvelles, Ted Williams est sans emploi, sans domicile fixe, mais il est pris en charge par quelqu'un qui est proche de lui. Puis il a un toit sur la tête. Il a l'air, en 2021, j'insiste, il a l'air en relative bonne santé. Il a l'air pas si pire que ça. Fait qu'écoute, mettons, tu pars, enlève tout ce qu'il y a dans le milieu, là. Tu pars de 2011, tu te rends à aujourd'hui, il est mieux qu'il était. Fait que c'est une bonne nouvelle.
Il y a un grand talent d'animateur, mais il n'y a pas le talent d'être heureux. Puis ça, c'est dans les Bougons, Paul Bougon dit ça à propos de son frère qui fait tout pour s'en sortir, puis ça ne marche jamais, puis tout le temps malheureux. Puis il dit, être heureux, c'est un talent. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Lui, il est très talentueux, mais ce talent-là, il ne l'a pas.
Il y a du monde que, dans le même sens, là, puis je ne veux pas faire le voisin gonflable, mais tu sais, Moi, j'aime bien, puis j'en ai connu du monde de même. Puis je pense que tout le monde qui est dans le chat en ce moment avec nous autres a connu du monde de même. C'est, il y a du monde qui n'ont pas le bonheur facile. Tu sais, c'est parce qu'à toutes les fois qu'il arrive quelque chose de bien dans leur vie, eux autres, ils sentent comme si c'était à veille de plus bien aller. Plutôt que de travailler, de contribuer à maintenir ça, ben il y a du monde qui n'a pas le bonheur facile. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Puis il y en a dont un auquel je pense, puis tu vas peut-être, tu le connais bien aussi, là, qui, quand on lui donne de l'aide ou quand il arrive quelque chose de bien, quand sa vie semble prendre un sens et s'aligner, il se sabote lui-même avant que ça aille mal. Tu sais, c'est comme sacrer ta blonde-là avant qu'elle te sacre-là, sacrer ta job-là avant qu'un moment donné, tu te fasses mettre dehors parce que tu te dis, tôt ou tard, ils vont mettre dehors, je suis trop bien ici, ça va trop bien, c'est sûr, ça va arriver, ils vont me crisser dehors. Moi, je sacre mon cas d'ici, comme ça, au moins, ça sera moi. T'sais. Il y a des gens qui s'auto-sabotent, puis je suis certain que tout le monde a une personne en tête dans les auditeurs de Monde dans le
chat. Ben ouais, c'est sûr.
On connaît tous quelqu'un qui s'auto-sabote toujours. Puis, sûrement plusieurs d'entre nous ont ce trait de caractère-là. Un petit peu des fois, là, tu sais. Je pense pas être trop pathologique.
On l'a peut-être tout un peu, mais il y en a que c'est vraiment caractériel.
C'est ça. Puis qu'il n'y a rien à faire. Peu importe ce qui va leur arriver, peu importe les chances qu'ils vont avoir, peu importe ce qu'ils vont réaliser, ils finissent toujours par s'auto-saboter. Puis ça, c'est triste quand t'aimes cette personne-là. Puis tu vois ça aller. Mais malheureusement, c'est rare qu'il y ait quelque chose à faire. Puis ce monsieur-là, c'est un peu un cas. Est-ce qu'on lui souhaite d'être heureux? Puis même s'il vit simplement, au moins d'avoir une belle fin de vie.
Il y a deux affaires que je sais, Frank, qui marchent pour aller mieux. C'est de se donner du temps. Puis d'avoir du monde autour de soi. C'est les deux seuls que moi je connais. À partir du moment que tu as pris la décision, là, c'est de se donner du temps puis d'avoir du monde autour de toi. Fait que soyez présents autour des gens.
Ouais, on va se laisser sur ces paroles de sagesse. Réfléchis, saisis. Pas facile à dire ça, mais je l'ai eu. Puis on se reparle demain à midi pour un autre Express. Salut.
De la famille H2O Web Media.